Alors, donc la première partie de cette matinée, c'est la visite du lieu de culte, donc à la mosquée. La visite est rapide parce que quasiment toutes les mosquées sont faites de façon très simple. Donc, c'est un édifice qui est généralement de forme cubique, avec une base carrée le plus souvent, parfois rectangulaire. Donc, à partir de n'importe quel point, on peut voir toute la mosquée. On n'a pas des dédales, des cachettes, etc. Donc, les caractéristiques d'une mosquée, la première chose, c'est la direction. Toutes les mosquées du monde entier sont dirigées vers la Mecque. Okay. On est en Europe, donc c'est la direction sud-est. Et c'est pour ça qu'en arrivant sur la nationale, vous voyez que la mosquée est un peu inclinée. Elle n'est pas perpendiculaire à la nationale. Elle est inclinée de cette façon-là vers la direction sud-est. Et dans chaque mosquée, dans la façade avant, ce que vous voyez là devant, il y a une espèce de petite niche qui s'appelle le mihrab, qui est l'endroit où se tient l'imam, qui est chargé de diriger la prière en groupe. Quand on vient prier à la mosquée, c'est pour faire une prière ensemble, en groupe, qui est dirigée par cet imam. Donc, toutes les mosquées sont identifiées par cette partie qui est située dans la façade avant et au milieu de cette façade-là, et l'imam se tient devant. Et puis tous les fidèles se tiennent derrière lui en rangée, c'est pour que vous voyez les traits sur la moquette et pour que les fidèles puissent s'aligner derrière l'imam. Et on remplit les rangées les unes derrière les autres. Après, vous avez, donc ça c'est important, après vous avez ce qu'on appelle le mimbar, c'est la chaire qui est située à droite, qui est l'endroit où se tient l'imam pour les offices. Officiel. Donc les discours du vendredi, tous les vendredis, 53 par an, et puis les deux prières de la nuit, celle qui célèbre la fin du Ramadan, et celle qui a lieu 70 jours après, qui célèbre le pèlerinage. Donc ça fait que l'imam se tient là-bas, 52 vendredis par an, et deux prières de la nuit, ça fait 53 par an, 54 fois par an. En dehors de ça, toutes les interventions qui sont faites par l'imam, il ne se tient pas au niveau de la chaire, au niveau du minbar, il se tient sur l'estrade qui est devant vous pour faire multiples conférences, interventions, etc. Quand il veut, quand il veut. Ça marche. Après, vous avez le reste, vous avez des petites étagères qui contiennent essentiellement les Corans, la parole de Dieu pour nous, et quoi d'autre? Vous avez des éléments symboliques qui ne sont pas obligatoires, le dôme et le minaret, d'accord? Qui caractérisent les mosquées, mais il y a des mosquées où il n'y en a pas. Des petites mosquées, il n'y a pas forcément un dôme, mais forcément un minaret. Ce n'est pas un élément obligatoire, mais c'est un élément caractéristique qui contient de traditions depuis le Moyen-Âge. Donc le minaret, c'est l'endroit qui est situé par là, on voit à travers la fenêtre. Vous avez dû le voir en arrivant sur la route. Donc c'est un élément qui est en hauteur, en général, c'est la partie culminante de toutes les mosquées. Ici, donc, nous avons respecté le PLU, les hauteurs maximales des immeubles en quoi c'est 18 mètres, donc notre minaret fait 18 mètres. D'accord? Mais il y a des mosquées où le minaret peut atteindre 200 mètres, 250 mètres.
Celle 2.
Après, il peut être celle 2?
Là, c'est la celle 2.
Oui, tout à fait. Et du coup, il est proportionnel à l'édifice. Il ne faut pas avoir une toute petite mosquée, un minaret qui fait 200 mètres. Donc, il est proportionnel à l'édifice. Donc, à l'époque, au Moyen-Âge, au 7e, 8e, 9e siècle, le minaret servait d'endroit où se tenait ce qu'on appelle le muaddin. Muaddin, c'est celui qui fait l'appel à la prière. À l'époque, il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas d'horloge. Et nous avons 5 prières quotidiennes qui sont réparties tout au long de la journée. Donc, le muaddin fait l'appel à la prière pour prévenir les gens pour qu'ils viennent se regrouper pour faire la prière en groupe. Donc, globalement, le adhan, qui est l'appel à la prière, a lieu 20 à 30 minutes avant la prière pour que les gens se préparent et qu'ils puissent venir. Maintenant, nous avons tous des montres, on connaît les horaires de la prière à une minute près, donc on vient avant. D'accord? Et maintenant aussi, avec le développement de la sono, le muezzin ne monte pas à 18 mètres de hauteur, il se tient dans l'un des bureaux de la mosquée pour faire l'appel à la prière. Donc ceux qui ont visité les pays musulmans, donc l'appel à la prière est diffusé à haute voix, et les gens qui sont autour de la mosquée entendent l'appel à la prière. Parce que la mosquée est un lieu de proximité. Nos prières sont quotidiennes. Tous les jours, on n'a pas de jour de repos, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. On prie tous les jours 5 fois par jour. Donc les gens se présentent dans la mosquée la plus proche de leur domicile ou de leur lieu de travail. Donc on fait un appel à la prière aux gens qui sont dans le coin. Et puis s'il y a des gens de passage, ils sont également droits de venir. La mosquée est ouverte à tout le monde. Donc c'est pour ça que dans les pays musulmans, l'appel est diffusé à haute voix pour que tous les gens qui sont dans le coin, autour de la mosquée, et qui peuvent se rendre disponibles pour la prière, puissent venir et aient le temps de se préparer et de venir. On ne fait pas l'appel à la prière et la prière 5 minutes après. Globalement, c'est 20 à 30 minutes avant.
D'accord? En France, il n'y a pas d'appel à la prière.
Ce n'est pas interdit par la loi.
C'est
pas interdit par la loi, mais traditionnellement, il n'y en a pas. Mais dans certains pays européens, certaines grandes villes, en particulier à Londres, à Copenhague, il y a des mosquées où il y a, en Allemagne ici, il y a des mosquées où il y a l'appel à la prière. Mais il n'y a rien que la taille,
il y a des pays où c'est interdit l'appel à la prière.
Bah, non, à ma connaissance, non. C'est comme ça. Donc du coup, il y a certaines villes où c'est pas trop permis, mais ça se fait. et certaines grandes villes européennes en particulier. Donc la mosquée, comme je vous l'ai dit, elle est ouverte tous les jours aux horaires de la prière. Elle n'est pas ouverte 24 sur 24, elle est ouverte aux horaires de la prière, puis elle ferme à peu près une heure après chacune des prières. Donc la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. La religion musulmane est fondée sur cinq piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'attestation de foi, c'est-à-dire attester qu'il n'y a de Dieu qu'un seul, un Dieu unique, on est une religion monothéiste, et que Mohammed est le dernier messager de Dieu. Sachant que nous, en tant que musulmans, nous croyons que Dieu a envoyé plus de 124 000 messagers et prophètes avant Mohammed, le dernier. Parce que toutes les communautés, à toutes les époques, ont eu droit à leurs prophètes et leurs messagers. Donc Mohammed, ce n'est pas le seul messager, c'est le dernier messager pour nous. D'accord ? Donc du coup, on croit en Jésus-Christ comme étant l'avant-dernier messager d'ailleurs. Et puis Moïse, David, Salomon, etc. Et tous les messagers qui sont cités dans la Bible sont également reconnus par l'islam. Le deuxième pilier, donc c'est la prière quotidienne. C'est ce qui assure le lien entre les croyants, les fidèles musulmans et leur Seigneur. Donc c'est tous les jours. Hein, c'est pas occasionnel, c'est tous les jours, c'est cinq fois par jour. Les horaires de la prière dépendent des positions du soleil. Donc globalement, on est en hiver, étant donné que les journées sont courtes, le soleil se lève à peu près à 8h moins quart et se couche à 17h, les prières sont plutôt regroupées. La première a lieu à peu près à 6h du matin, la dernière à 19h. Par contre, en été, les journées sont beaucoup, beaucoup plus longues, donc les prières sont plutôt éparpillées. La première a lieu à 4h du matin et la dernière quasiment à minuit. Et elles sont espacées dans la journée en fonction des positions du soleil. Là, on est en plein hiver, globalement, donc celle du matin, c'est à 6h. Après, on a celle du midi qui est à 12h30, puis une autre à 15h, celle du coucher du soleil à 17h30, et puis celle du soir à 19h. Et puis c'est terminé. Mais du coup, en été, ça s'étale beaucoup plus. Donc c'est 4h du matin, 14h, 18h, 22h, et à peu près minuit. Donc ça, c'est les prières quotidiennes que tous les musulmans sont censés faire. Ce qu'on appelle les prières obligatoires. Après, on a ce qu'on appelle les prières surrogatoires, c'est les prières supplémentaires que chaque fidèle a le droit de faire autant qu'il veut, quand il veut. Le troisième pilier de l'islam, c'est ce qu'on appelle le ramadan, que tout le monde connaît. C'est un mois de jeûne, c'est le neuvième mois du calendrier lunaire. C'est ce qu'en islam, on se base sur le calendrier lunaire, qui est composé de 354 jours. Donc, 11 jours de moins que le calendrier solaire, le calendrier grégorien qui est connu. Du coup, le calendrier musulman se décale tous les ans de 11 jours. Donc, tous les mois se décalent de 11 jours. Le mois le plus connu, c'est le ramadan. Donc, le ramadan se décale de 11 jours tous les ans. L'année dernière, il avait commencé le 15 mai. Cette année, il devrait commencer le 4 mai. On enlève 11 jours tous les ans. Donc du coup, tous les 36 ans, le ramadan fait le tour de l'année. Parce que si on multiplie 36 par 11, ça donne 365 jours. Donc le mois de ramadan, tous les 36 ans, il fait le tour de l'année solaire, du calendrier grégorien. Mais en fait, tous les mois de l'année font ça. Mais le mois le plus connu, c'est le ramadan.
Le ramadan peut tomber en décembre.
Ah oui, dans 16 ans, il sera en décembre. Donc on sait qu'en 2031, il sera en mois de décembre. Tous les ans, il se décale d'avance de 11 jours.
Oui,
parce que l'année lunaire est 11 jours de moins que l'année solaire. Donc ça, c'est le troisième pilier du stage. Donc c'est un mois qui est composé soit de 29 ou 30 jours, ça dépend des années, qui dépend du coup du cycle lunaire. On n'a pas de mois avec 31 jours, on n'a pas de mois à 28 jours comme le mois de février. C'est soit 29, soit 30 maximum. Et donc parfois c'est 29 jours, parfois c'est 30 jours en fonction du cycle lunaire. Une fois de plus, donc ça c'est la partie que tous les fidèles font, et puis chaque fidèle a le droit de jeûner d'autres jours supplémentaires tout au long de l'année. Nous avons des jours très connus que beaucoup de fidèles respectent et jeûnent ces jours-là, en particulier le 10e jour de l'année qu'on appelle le Ashura, qui correspond à peu près au Yom Kippour chez les juifs, parce que c'est le jour, en tout cas pour nous, c'est le jour où Dieu a sauvé Moïse de Pharaon. Donc on le célèbre tous les ans de la victoire de Moïse qui a sorti de l'esclavage des Hébreux, qui les a fait partir d'Égypte. Et puis nous avons le Arafat. Arafat, c'est le 10e jour du dernier mois de l'année qui célèbre, enfin un jour avant le grand jour du pèlerinage. Donc pareil, il a lieu 69 jours après la fin du ramadan. Donc ça, c'est des jours très particuliers dans l'année. Et puis les fidèles, ils ont le droit de jeûner quand ils veulent, mais il y a des jours un peu plus connus que d'autres. Après, le quatrième pilier de l'islam, c'est la zakat. La zakat, donc il s'agit d'une participation de solidarité des fidèles qui ont les moyens financiers de le faire pour les gens qui sont en situation de difficulté sociale. D'accord ? Donc ça se fait une fois dans l'année. Il y a deux conditions. Il faut posséder un minimum d'épargne qui correspond à peu près à l'équivalent de 85 grammes d'or. Actuellement, c'est 2950 euros. Si on a cette somme-là depuis plus d'un an qu'on n'a pas utilisée, donc c'est une épargne, hein, ce n'est pas un impôt sur le revenu comme c'est le cas dans les pays en général. Si on a possédé cette somme et qu'on ne l'a pas utilisée pendant plus d'un an, on est censé sortir 2,5% de cette somme-là, donc 25 euros pour 1 000 euros. Donc ça fait 75 euros pour les 3 000 euros au bénéfice des pauvres. Donc c'est le fidèle qui le fait lui-même, il n'y a pas de contrôle, on ne fait pas de déclaration à la mosquée ni à quoi que ce soit, c'est vraiment individuel et ça permet d'assurer la solidarité. Comme vous le savez, la solidarité est basée essentiellement sur le bénévolat et le volontariat dans les pays, mais en islam c'est un devoir religieux. Comme on fait le ramadan, on est censé aider les pauvres quand on a les moyens, évidemment. Et avoir les moyens, c'est défini comme ça. Ce n'est pas de gagner 3 000 euros par an, par mois plutôt, parce qu'on peut gagner 3 000 euros par mois mais avoir beaucoup de dépenses. C'est d'avoir un épargne de plus de 3 000 euros, enfin 85 grammes d'or parce que ça dépend des cours de l'or. Actuellement c'est à peu près 3 000 euros et qu'on n'a pas utilisé pendant plus d'un an. Donc a priori on a les moyens de sortir une petite somme. Alors si tout le monde joue le jeu, vous imaginez si chacun gardait 3 000 euros, 75 euros fois 1 milliard de musulmans, ça fait 75 milliards tous les ans qu'on déploie pour les pauvres. D'accord ? Et le cinquième pilier de l'islam, c'est le pèlerinage, qu'on appelle le hajj en fait en arabe, parce que le pèlerinage chez les catholiques c'est un peu différent. Donc le hajj, donc, c'est une visite qu'on fait une fois dans la vie au lieu saint, le lieu saint qui est la Mecque, pour visiter donc, cette mosquée qui a été fondée par Abraham il y a plus de 5000 ans. D'accord ? Donc c'est une fois dans la vie, il faut le faire. Et puis, pareil, on peut le faire plusieurs fois pour celui qui a les moyens, celui qui a du temps pour le faire plusieurs fois. Et ça se passe à la fin de l'année lunaire, donc le 12e mois, le dernier, Dhul Hijjah, et ça dure 5 jours. Il y a 5 jours, il faut être présent sur les lieux. En général, les gens, quand ils le font, ils y vont pour 2 semaines, 3 semaines, mais il faut être présent 5 jours précisément pendant cette période-là, où tous les musulmans du monde vont à la Mecque pour effectuer le Hajj.
Donc, il y a un âge minimum ?
Et la puberté, il faut être pubère. Nous, la responsabilité, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas 18 ans. À partir du moment où l'enfant, le garçon ou la fille sont pubères, ils sont responsables sur le plan religieux, pour les prières, pour le ramadan, pour le hajj, etc. Donc l'âge minimum, c'est la puberté et il n'y a pas d'âge maximum. Il est recommandé de le faire pas trop tard parce que c'est relativement physique. Hein. Il faut se déplacer sur un rayon de 5-6 km. Il y a un peu de marche, etc., un peu de camping, entre guillemets. Donc il faut être quand même relativement en bonne santé. Pardon. Et puis, ça se passe en Arabie Saoudite. Comme pour le ramadan, ça se décale de 11 jours tous les ans. Donc quand c'est au mois d'août, comme cette année, il faut le supporter. Il fait 45-50 degrés. Bon, maintenant, il y a les moyens, la climatisation, etc. Ce n'était pas le cas il y a quelques temps. Mais le hajj, comme le ramadan, se décale tous les ans de 11 jours. Donc cette année, c'était en plein mois d'août. L'année prochaine, ça va être fin juillet. Puis ça se décale de 11 jours tous les ans. Et dans 26 ans, ça va être au mois de décembre. Ça tourne comme ça tous les ans. Donc ça, c'est les 5 piliers de l'islam que tous les musulmans sont censés respecter. D'accord ?
Hommes et femmes.
Hommes et femmes, oui, il n'y a pas de chance. Il faut être pubère, c'est la seule condition. Et puis être raisonnable, c'est-à-dire les personnes qui ont un problème mental, qui ne comprennent pas, effectivement, ne sont pas concernées par ça. Les seules conditions, c'est d'être pubère et d'avoir ses facultés mentales et intellectuelles pour être concerné par ces prescriptions religieuses. Et puis après, au niveau de la mosquée, donc ce qu'on fait, c'est les prières quotidiennement. Donc la mosquée est ouverte, comme je vous l'ai dit, 365 jours sur 365. Elle est ouverte à tout le public, hein, n'importe qui peut rentrer. On n'a pas de laissez-passer, il ne faut pas habiter dans le quartier pour rentrer, c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr, avec les affaires de terrorisme, etc., on fait des contrôles à l'accès. Donc les gens ne viennent pas avec leurs courses, avec leurs sacs à la mosquée, ils viennent pour prier, ça dure 10 minutes, puis ils s'en vont. Donc on leur demande de ne pas se présenter avec des sacs, etc., pour des raisons de sécurité, mais sinon c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir effectivement des problèmes parce qu'on ne contrôle pas les gens qui viennent. Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un club privé, c'est ouvert à tout le monde. Même quelqu'un qui n'a pas une apparence musulmane. C'est un non-musulman, on lui demande ça de se présenter quand il vient. Donc il peut rentrer effectivement. D'accord ? À part les prières, donc ça c'est les prières quotidiennes. Après il y a la prière illustre de la semaine, c'est la prière du vendredi. Donc, elle ne se conçoit qu'à la mosquée. Les autres prières peuvent se faire à domicile ou dans n'importe quel endroit qui soit propre. D'accord ? Mais la prière du vendredi ne se fait que dans une mosquée. C'est pour ça que le jour du vendredi, le nombre de fidèles est beaucoup plus important. Ici, dans cette mosquée, nous accueillons à peu près entre 500 et 700 fidèles tous les jours, en particulier le soir, parce que la journée, les gens travaillent, donc on n'a que des retraités et puis les personnes qui ne travaillent pas ce jour-là. Mais le soir, on a beaucoup plus de fidèles, évidemment, que la journée. Mais le jour du vendredi, on accueille la capacité maximale, c'est 2500 personnes et ils y sont, c'est plein. Parce que c'est une prière qui ne se fait que dans une mosquée. On ne peut pas la faire chez soi, dans un coin. Il faut la faire en groupe, dans une mosquée, et qui est précédée par un discours qui est fait par l'imam. Et à ce moment, il se tient sur la chair, donc comme je vous ai dit, une fois par semaine. Donc c'est un discours qui dure 30 minutes à peu près.
Il peut y avoir plusieurs offices ou quoi ?
Normalement, c'est un office par mosquée. Mais dans des pays non musulmans où il y a une grosse communauté musulmane, la mosquée déborde. Nous, parfois, il y a des gens qui prient sur le parvis, malheureusement. Pour l'instant, nous, on n'est pas contraint à faire ça, mais je sais que dans certaines villes, ils peuvent faire deux ou trois offices, en particulier en Angleterre, mais avec trois imams différents, parce que le même imam ne peut pas faire la prière du vendredi deux fois. Ah. Mais du coup, ça se fait. Ça se fait pas, ça se fait si besoin, parce que la mosquée est limitée en termes de capacité d'accueil et que le nombre de fidèles est important. Ah non, c'est pas interdit, mais c'est pas quelque chose qui est fait régulièrement. Donc ça se fait dans certaines mosquées parce que les capacités d'accueil des mosquées sont dépassées. Donc du coup, pour éviter les problèmes justement de sécurité, on fait plusieurs offices. Du coup, on permet aux gens de venir à midi, à 13h ou à 14h. Et puis c'est le même problème qui se pose pour les prières de l'Aïd, qui ont lieu deux fois dans l'année. Là, on a beaucoup plus de fidèles que le vendredi parce que c'est que deux fois dans l'année. Nous, parfois, le parvis est débordé. Donc,
c'est comme la messe de minuit.
Oui, de minuit de Noël. Donc du coup, là, il y a de plus en plus de mosquées en France qui font plusieurs offices, alors qu'habituellement, c'est une fois par mosquée. Mais pour les mêmes raisons, certaines mosquées se le célèbrent deux fois en proposant deux horaires différents pour que les gens puissent se présenter. Et puis, pour la prière du vendredi, quand on est dans un pays musulman, donc c'est un jour le plus souvent qui est chômé, les fidèles ne travaillent pas, donc ils viennent facilement à la mosquée. Dans des pays non musulmans, les gens travaillent. Et donc, ils viennent globalement à leur pause de midi. Donc, il y a des mosquées qui proposent des horaires différents. Il y en a qui prient à 13h, il y en a qui prient à 14h pour permettre aux différents fidèles de se présenter à l'horaire qui convient en fonction de leur pause par rapport à leur travail. Et puis, donc, la prière est rapide, elle dure 5 à 10 minutes, mais il y a le discours qui précède la prière qui dure 20 à 30 minutes. Donc, globalement, on va compter 50 minutes. Donc, une pause méridienne suffit pour assister à la prière à condition d'avoir une mosquée pas très loin du lieu de travail. En dehors donc de ça, on fait des conférences régulièrement, en particulier le week-end, quand les gens sont disponibles. C'est le frère Faïd, qui est le secrétaire de l'association, qui s'occupe du programme annuel. Donc nous invitons, il y a soit l'imam, qui fait l'imam de la mosquée, qui fait des interventions, et puis enfin, on a des invités qui viennent d'un peu partout en France, enfin, Île-de-France en général, parfois de loin, qui font des conférences sur des thèmes divers et variés qui concernent la communauté musulmane. Donc une fois de plus, c'est ouvert à tout le monde. On a plusieurs centaines de personnes qui assistent régulièrement, donc parfois c'est réservé aux enfants pour avoir un public assez adapté, et parfois ça, c'est ouvert aux adultes et aux enfants. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Oui, les prières mortuaires, donc ça continue en cas de décès, évidemment. Les corps sont amenés après la toilette mortuaire ici à la mosquée pour qu'on puisse procéder à la prière funéraire qui permet de faire des invocations pour le défunt, et puis le corps est acheminé soit au cimetière ici dans le coin, sinon il est rapatrié dans certains cas dans les pays d'origine, en particulier des personnes âgées. Après, effectivement, pendant le ramadan, nous avons une prière particulière qui est la prière de nuit, c'est la prière de Tarawih. Tous les soirs du ramadan, on fait une prière, des prières surrogatoires spécifiques du ramadan après la dernière prière de la journée, qui a lieu donc actuellement en été à 23h, 23h30. Et c'est une prière qui dure à peu près une heure et qui permet que les fidèles écoutent l'ensemble du Coran du début du mois jusqu'à la fin du mois. Le Coran est composé d'à peu près 610 pages, donc il est divisé en plusieurs tranches, 60 hizbs, on appelle ça les hizbs, et tous les jours on récite deux hizbs, parce qu'il y a à peu près 29 ou 30 jours par mois de ramadan. Donc à la fin du mois de ramadan, l'imam aura récité l'ensemble du Coran, et ça permet aux fidèles qui n'ont pas l'occasion, la possibilité de lire le Coran régulièrement, de l'écouter entièrement au moins une fois dans l'année, donc pendant le mois du ramadan. Et puis eux-mêmes, ils ont la possibilité, bien sûr, de le faire. Donc ça peut se faire aussi individuellement à domicile. Mais souvent, ça fait plutôt dans les mosquées, en groupe. Et du coup, on a beaucoup de gens qui viennent pendant ces prières-là. C'est que pendant le mois de Ramadan, le soir.
Pour la prière du Coran, il n'y a pas de traduction?
Non, quand on fait la prière, le Coran est en arabe. Hein. Donc on ne traduit pas le Coran parce que c'est la parole de Dieu. Quand on le traduit, ça devient la parole du traducteur. Donc le Coran est en arabe. Mais on peut traduire l'explication, enfin on peut expliquer le Coran dans différentes langues pour les gens qui ne sont pas arabophones. Mais ce n'est pas du Coran. C'est l'explication du Coran en français, en anglais, dans d'autres langues, etc. Mais on ne peut pas prier avec parce que ce n'est pas la parole de Dieu du coup, c'est la parole du traducteur. D'accord ? Les prières se font en arabe.
Et ça veut dire que finalement l'accès, en tout cas à la pleine compréhension du culte, nécessite la compréhension de la langue.
C'est ça. Donc il est recommandé, fortement recommandé aux musulmans d'apprendre l'arabe, parce que c'est la langue du Coran, la langue de Dieu. Et effectivement, pour avoir accès à cette parole de Dieu sans intermédiaire, parce que nous on tient dans la religion musulmane, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'intermédiaire entre le fidèle et son seigneur. L'imam n'est qu'un organisateur du culte en fait, mais ce n'est pas un intermédiaire. Donc chaque fidèle a accès à son seigneur directement, et pour que l'accès soit libre et vraiment adapté à chaque fidèle, il est fortement recommandé que le fidèle apprenne l'arabe pour qu'il puisse avoir accès à la parole de Dieu directement. Parce que tant qu'il ne connaît pas l'arabe, il va être obligé de lire des traductions faites par des êtres humains comme vous et moi, qui ont un certain niveau évidemment, mais ça reste leur explication du Coran. Et le fidèle ne peut pas comprendre par lui-même, il est obligé de comprendre ce que les autres ont compris pour lui. Mais si lui, il veut vraiment comprendre le Coran, il faut qu'il apprenne l'arabe. Du coup, l'arabe, c'est la langue de l'islam. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard et 400 millions de musulmans à travers le monde. Il n'y a que 300 millions de musulmans d'origine arabe. Il y a 1 milliard et 200 millions de musulmans d'origine non arabe, donc ils ne sont pas forcément arabophones à la base, mais qui apprennent l'arabe et qui essayent d'apprendre en tout cas pour pouvoir justement lire la parole de Dieu. On a à travers le monde des millions de musulmans qui connaissent même la parole de Dieu par cœur en arabe, alors que leur langue maternelle n'est pas du tout l'arabe. Donc l'islam, ce n'est pas une religion d'arabe, mais l'arabe est la langue officielle de l'islam, effectivement. Donc du coup, toutes les populations musulmanes parlent l'arabe, essaient de comprendre l'arabe, peut-être pas parfaitement pour tout le monde, mais la lecture du Coran se fait en arabe. Donc il est fortement recommandé d'apprendre l'arabe pour avoir accès direct, pour éviter justement les intermédiaires.
Mais c'est l'arabe littéraire, c'est pas l'arabe dialectal.
Ah oui, c'est l'arabe littéraire. L'arabe dialectal, vous savez, c'est comme tous les dialectes du monde, c'est un mélange de plusieurs langues. Hein. C'est majoritairement de l'arabe, mais il y a plein d'autres langues. Par exemple, l'arabe algérien ou marocain, tunisien, il est énormément imprégné de français, il est énormément imprégné d'espagnol, qui eux-mêmes sont imprégnés de l'arabe, évidemment. Le français est énormément imprégné par la langue arabe, de même que l'espagnol. Mais l'arabe dialectal n'est pas l'arabe classique, effectivement. L'arabe du Coran, c'est l'arabe littéraire. Mais du coup, c'est plus facile à apprendre parce qu'il y a des règles précises. L'arabe dialectal, il n'y a pas de règles. Il faut écouter et parler, comme tous les dialectes du monde. Mais l'arabe littéraire, il y a des règles, il y a une grammaire, une orthographe et tout ce qu'il faut.
À préciser juste que les discours se font en
oui.
français.
Oui, du coup, oui. Par exemple, en France, par la l'occurrence ici,
que vous évoquiez.
C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas très bien l'arabe, donc les discours sont faits avec les deux langues. Donc, c'est ça, une partie en arabe, puis l'imam explique ce qu'il a dit en français pour que tout le monde. Parce que le discours du vendredi, c'est quand même un discours direct qui est là pour sensibiliser les fidèles pour certaines choses. Donc, s'ils n'ont pas compris, ça ne sert strictement à rien. C'est pas un discours, c'est pas des chants, c'est pas des. Le discours, vraiment, c'est quelque chose de pratique pour les fidèles. Donc, il faut qu'ils le comprennent. Donc, du coup, il est fait avec les deux langues, toujours en français et en arabe, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, effectivement.
Du coup, la prière femme-homme. Comment elle se passe puisque
en même temps, donc les femmes se tiennent là, les hommes
oui,
se tiennent là.
D'accord.
C'est la même prière, on ne fait pas deux prières séparées. Les hommes et les femmes sont séparés, donc les femmes se tiennent ici, les hommes se tiennent en bas, mais tout se fait en même temps. On ne fait pas deux sessions, tout se fait en même temps.
Et pourquoi en haut les femmes et les hommes en bas?
Ben non, on aurait préféré le contraire parce que la vue est quand même meilleure ici que d'en bas. Mais moi je l'ai vu clairement. Enfin, vous descendez en bas, vous n'avez pas du tout la même vue. Mais traditionnellement, il y a moins de femmes dans la mosquée que d'hommes, donc il nous faut plus d'espace pour les hommes que pour les femmes. Mais si un jour il y aura plus de femmes que d'hommes, on inversera forcément.
On pourrait alterner une semaine sur deux, les hommes en bas
et
les femmes en
haut. Ça ne suffira pas. Les femmes peuvent suffire. Si un jour, c'est ce que je disais, si un jour le nombre de femmes augmente de façon importante, du coup, on inversera.
Et pourquoi est-ce que les femmes viennent moins? Ça veut dire qu'elles sont moins impliquées? Elles obéissent moins aux règles?
Ah non, non, je vous ai dit, la prière se fait n'importe où, même à domicile, même.
Mais pas le vendredi.
Oui, pas le vendredi. Le vendredi, elles viennent, effectivement.
Et donc mais, le vendredi, elles sont aussi nombreuses que les hommes?
Elles sont moins nombreuses que les hommes, plus nombreuses que la reste de la semaine, mais moins nombreuses que les hommes, parce qu'effectivement, bah, elles sont occupées, etc. Après, si les gens ont une occupation particulière, ils ne peuvent pas venir, ils ne viendront pas. On ne peut plus les obliger. Parce que c'est toujours basé sur le volontariat. Comment ?
C'est pas une obligation.
C'est une obligation que ça soit fait à la mosquée. On ne peut pas faire la prière du vendredi ailleurs. Mais si, même les hommes, moi, de temps en temps, je n'arrive pas à me libérer de mon travail pour venir le vendredi. Donc il y a des vendredis, je ne peux pas venir.
Pratique. C'est pas l'appel de tous les croyants.
Ah non, non, je dis, tout est basé sur le volontariat. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de liste de présence, enfin, il n'y a rien, que ce soit pour les prières, pour la zakat, l'espèce de dette qu'on donne pour les pauvres. Le ramadan, pareil, on dit qu'on fait le ramadan, mais quelqu'un peut manger en cachette, on ne va pas faire une enquête sur les personnes. Hein. C'est vraiment, tout est basé sur le volontariat et la bonne foi des croyants.
Donc il
n'y
a pas de contrainte à être le vendredi.
Ah non, enfin, on essaye, chacun fait son possible, c'est important, parce que c'est une prière hebdomadaire qui regroupe tout le monde. Mais celui qui ne peut pas, il ne faut pas rester chez soi à regarder la télé, déjà je ne peux pas y aller. Mais si.
Mais qu'est-ce qui justifie qu'il n'y ait pas de contrainte? C'est un texte, c'est.
Ah bah, de toutes les prescriptions religieuses, la contrainte est mise par-dessus. Nulle contrainte dans la religion. C'est un texte, bien sûr, il y a plusieurs versets du Coran qui parlent de l'histoire de la contrainte. Vous savez, quand on est dans le désert, qu'on est assoiffé, qu'on va mourir de soif et qu'il y a une bouteille de vin, ben,
on va la boire.
On ne va pas la boire à volonté, mais on peut boire du vin pour ne pas mourir de soif. La contrainte est un principe dans la religion, nulle contrainte dans la religion, dans toutes les prescriptions. La prière, le ramadan, les gens qui sont malades, ils ne peuvent pas jeûner, par exemple, en été, c'est quand même long, hein, c'est de 4h du matin jusqu'à 22h. Les personnes qui ont certaines maladies, les personnes âgées,
les gens voyagent aussi.
Les gens voyagent, tout ça, c'est des dérogations.
Il y a des défauts de contraintes légales.
il y a une contrainte sociale.
Oui, la contrainte sociale. Je vous ai dit, moi, sans enfant, je ne viens pas. Quand je suis responsable de la mosquée, il y a des vendredis. Ce vendredi, il y en a 6 vendredis, j'y étais. Vendredi d'avant, je n'ai pas pu y aller. Pour mon travail, je n'ai pas pu me libérer. La contrainte est un principe qui est notifié dans la religion musulmane. C'est une des règles du droit musulman. Mais il faut que ce soit une vraie contrainte.
Vous faites quand même de la prière dehors chez vous.
C'est ça, exactement. D'accord. Du coup, celui qui ne peut pas se libérer pour la prière du vendredi, qui remplace la prière du midi qu'on fait toute la semaine, donc il va faire la prière du midi habituellement, effectivement.
Et, ok, excusez-moi.
Tout à l'heure, mais juste pour compléter, vous êtes professeur, docteur, pardon, pédiatre. Dans le civil. Donc,
parfois, je me libère, mais parfois, quand j'ai un cas urgent à la dernière minute, je vais pas laisser tomber l'enfant et venir prier, puis dire attendre une demi-heure, j'en reviens.
Donc, votre présidence de l'ACMA est tout à fait bénévole.
Bénévole, mais tout à fait. Bah, tout le travail qui est fait à la mosquée, par l'imam qui est salarié, tous les intervenants dans la mosquée sont des bénévoles. Personne n'est salarié. Donc, tout est basé sur le volontariat. On ne peut pas obliger les gens, puis ça ne nous intéresse pas d'obliger les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et puis,
oui, c'est une conviction. Oui.
C'est ça, exactement. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Hein. Donc, il n'y a que l'imam qui est salarié, sinon tous les autres qui interviennent, celui qui ouvre la porte, celui qui ferme la porte, celui qui fait le ménage, tout le monde est volontaire et bénévole.
Est-ce que je peux revenir sur le prêche? Oui. Vous disiez qu'il était en arabe et en français.
En France, en arabe, pays, en anglais.
J'imagine en arabe littéraire, donc c'est pas.
Ah oui, tout à fait, oui. Après, pareil, bah, effectivement. Bah,
Pourquoi il est bilingue alors que probablement, à Aulnay, la langue partagée par le maximum de fidèles, c'est le français?
Parce que les textes d'origine sont en arabe. Donc le Coran, il est en arabe. Il faut lire les textes en arabe. Les paroles du prophète lui-même sont en arabe. Donc les textes, il faut les lire, on ne peut pas les changer. C'est comme à l'époque, la messe était en latin.
Mais le prêche est en français systématiquement.
Non, c'est ce que je dis là. Déjà, les textes, on ne peut pas les changer, il faut les dire. Parce que quand on va expliquer un texte, si on n'a pas lu le texte, on va expliquer quoi? Donc on est obligé de lire les textes en arabe. Et puis après, il y a aussi des gens qui sont là, qui maîtrisent parfaitement l'arabe, en particulier les personnes âgées, mais qui ne maîtrisent pas très bien le français. Parce que pareil, quand on va parler de français, quand on va citer un certain nombre de mots, il y a des gens qui ne les comprennent pas très bien. Il faut avoir un certain niveau intellectuel pour comprendre certains mots en français. Donc on a des gens qui maîtrisent parfaitement l'arabe, en particulier dans les personnes âgées, qui ne maîtrisent pas très bien le français. Donc on maintient toujours les deux discours. Et puis surtout les textes sont en arabe, il faut les dire en arabe. Sinon on les modifie. Nous la parole de Dieu ne change pas depuis donc 722, la parole est en arabe et transmise de génération en génération à travers le monde. Il y a des millions de musulmans, parce que les imams, mais pas que les imams, qui connaissent la parole de Dieu par cœur du début jusqu'à la fin, les 610 pages. Et en arabe, justement, pour éviter leur modification.
Il existe néanmoins des traductions du Coran.
Des explications, ce que je disais. Mais ce n'est pas la traduction du Coran. Ce n'est pas du Coran en français. C'est ce qu'on dit aux filles. Ce n'est pas du Coran en français. Non, c'est l'explication du Coran en français.
Ce n'est même pas une traduction?
Non, c'est une explication. Parce que parfois, il y a un verset du Coran qui fait deux phrases, et en français, c'est ce qui fait deux, trois mots, et en français, il est expliqué en deux phrases.
C'est vrai, c'est toujours été présenté comme des traductions.
Oui, c'est faux. C'est pas une traduction du Coran, c'est une explication du Coran en français.
Moi, on m'a donné
un Coran français.
Un Coran français.
C'est faux. C'est pas comme la Bible qui existe dans différentes langues. Ah ouais. Le Coran n'existe qu'en arabe.
Oui, et vos livres de prière.
Parce qu'à partir du moment où on le traduit, c'est plus la parole de Dieu, c'est la parole du traducteur. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est plus la parole de Dieu, c'est celui qui a traduit.
Mais c'est pas forcément une explication dans le sens où on prend pas forcément beaucoup plus de phrases pour expliquer.
Souvent, c'est beaucoup plus de phrases, parce que la parole de Dieu est très concise. Mmh. Il y a des versets qui font deux mots, mais quand on les explique, ça fait une demi-page.
Oui, mais.
Après, il y a l'exégèse. Hein. Vous parlez peut-être de l'exégèse, c'est autre chose encore. Mmh. Ouais. On va expliquer dans la profondeur. Il y a aussi l'exégèse traduit en français. Mais là, je vous parle du Coran lui-même. Ouais. En arabe, il fait 610 pages. En français, il va faire peut-être 650 pages. Parce qu'on peut pas, on n'a pas les mêmes mots d'une langue à l'autre. C'est pareil, si vous prenez un livre de Proust ou de Victor Hugo, vous le traduisez en arabe, ça ne va pas être la même chose. Ça va être l'explication qu'a compris celui qui a lu le livre de Victor Hugo qui l'a traduit en arabe. Et parfois, il y a des choses qu'il n'a pas bien comprises. Donc la compréhension des textes dépend de l'époque. Hein. Il y a par exemple des textes dans le Coran, chez les médecins, qui parlent de l'embryologie, ils n'ont pas été compris au 7e siècle comme on le comprend nous aujourd'hui. Donc à l'époque, ils l'ont expliqué à leur façon, et aujourd'hui, c'est une explication complètement autre. Parce qu'on se rend compte que c'est la vraie embryologie, que ça parle des étapes du développement de l'embryon, comme on les connaît dans la science actuelle et moderne. Mais ce texte, il n'a pas changé depuis 14 siècles. Les gens de l'époque ne l'ont pas compris, ils n'avaient pas de microscope, ils n'avaient rien de tout ça. Et puis d'autres connaissances astronomiques, géologiques, etc., qui sont dans le Coran, qu'on comprend que maintenant, grâce à la science.
Enfin, on peut quand même traduire le Coran de manière littérale.
C'est pas une femme, mais ça reste pas le corps, justement, c'est une traduction, mais c'est pas, de, c'est pas oui. Le corps, on ne peut pas dire aux gens, il faut
traduire,
pas
c'est trahir.
Oui. Traduire, c'est trahir, bravo. Il faut pas le
présenter comme ça. L'Ancien Testament, bah, oui, l'Ancien Testament est en hébreu, et pourtant il y a une traduction.
Oui, mais pour nous ça marche pas, parce que c'est pas la parole de Dieu, vous êtes bien d'accord avec moi. Nous on est censé dire la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu.
Dans les synagogues, vous avez...
Il est en hébreu.
C'est en hébreu, mais vous avez la traduction en français à côté.
L'explication pour ceux qui comprennent.
Non, la traduction.
Oui, mais pas avec ça.
Non, mais ça permet, je pense, à la personne de comprendre.
Oui, c'est ça, ce que je vous dis.
La différence, c'est parce que est-ce que vos Corans ont la traduction en français?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La traduction, mais c'est pas, il ne faut pas le dire, c'est du Coran en français. C'est pas, le Coran, c'est la parole de Dieu.
La différence aussi, c'est que je pense que le Coran, ce sont des choses qui ont été sorties par le prophète en direct.
Non, non, pas sorties par lui. Enfin, révélées.
Excusez-moi. Par contre, la Bible, c'est complètement différent parce que ce sont des gens différents qui ont écrit.
C'est les apôtres et les gens.
Voilà, exactement. Je pense que c'est ça un peu.
Si je prends le Coran français, et si je lis Bismillah al-Rahman al-Rahim, je
là, vous êtes en train de lire en phonétique, l'arabe en phonétique, qui est une mauvaise traduction, mais c'est ça. On comprend, mais ce n'est pas ces mots-là. Par exemple, miséricordieux, ce n'est pas vraiment le Rahman en arabe. C'est un sens un peu approché. Il y a des mots en arabe, ils n'ont pas d'équivalent en français. Nous, quand on dit le faux air, par exemple, en arabe, il n'y a aucun équivalent en français. Le plus proche, c'est le cœur, mais ce n'est pas vraiment le cœur. Parce que le cœur, c'est un palp. Et le faux aide, il est traduit souvent par le cœur, mais c'est une fausse traduction. C'est un autre équivalent. Vous savez qu'en arabe, c'est une langue qui est très plus ancienne que le français, comme vous le savez, qui est très riche. Par exemple, pour le mot, il y a un certain nombre de mots. Par exemple, pour dire un lion, il y a 70 mots différents en arabe pour désigner le lion. Et puis vous avez 100 mots différents pour désigner les dates, en fonction de leur fraîcheur, de leur ancienneté, etc. Et ça, c'est des équivalents qu'on ne trouverait jamais en français. C'est pas possible, c'est normal, il n'y avait pas de date en français. Donc c'est aussi simple que ça. Il y a des mots qui n'ont pas d'équivalent dans d'autres langues. Et c'est pareil pour le français. Si on prend un livre original en français, on veut le traduire dans d'autres langues, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire comme il faut. Il y aura un sens approché. Et c'est fait pour les gens qui ne parlent pas l'arabe. On est obligé. Les gens ne vont pas apprendre l'arabe en deux jours. Donc on est obligé de leur donner une traduction pour qu'ils puissent comprendre au début, en attendant qu'ils aient accès à la connaissance parfaite et de pouvoir lire eux-mêmes la parole de Dieu. Mais on peut pas, il ne faut pas leur dire que ça c'est le Coran en français, parce que c'est faux. Parce que ça c'est important ce qu'il a dit, le Coran c'est la parole de Dieu. Contrairement à la Bible, c'est pas que la parole, il y a des mots qui sont la parole de Dieu, mais il n'y a pas que ça. Le Coran c'est vraiment, c'est même pas la parole du prophète, parce que le prophète il a d'autres paroles qui sont, si vous avez dû voir ça, les hadiths, hein, qui n'ont rien à voir avec le Coran, ça pour nous c'est entièrement séparé. Les mots du Coran, ce n'est pas les mots du prophète. Le prophète n'a pas, on n'y a pas inspiré un sens et puis il s'est exprimé pour nous exprimer le Coran. Il a reçu ces mots, il les a traduits, transmis, et on s'est transmis de génération en génération jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça, on ne peut pas les modifier.
Est-ce que ça veut dire que Dieu parle arabe?
Genre, Dieu parle toutes les langues, c'est lui qui les a créées. Ouais. Il a fallu faire un choix. Ça aurait pu être grec, romain, je ne sais pas, mais c'était le choix, on n'a pas décidé nous-mêmes. Hein. Nous, moi, je ne suis pas arabe d'origine.
Mais sauf que l'arabe littéral, au temps du prophète, n'était pas codifié. Les règles de l'arabe littéral d'aujourd'hui, qui figent la parole de Dieu, n'étaient pas codifiées. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a eu une intervention finalement humaine
pour
dans la structuration du Coran?
Dans la structuration du Coran, il n'y a pas d'intervention humaine. C'est une transmission.
Grammaticale. Grammaticale.
Ah non, c'est pas possible. Enfin, les règles qui ont été dictées par la suite, justement, les règles de l'arabe, elles ont été mises en place à partir de 750 de l'ère chrétienne, ce qui correspond à peu près.
D'accord, donc
les gens non arabes ont commencé à se convertir à l'islam. Donc les musulmans de base, qui étaient essentiellement des arabes, ont compris qu'il fallait mettre en place des règles, parce que eux, c'était leur langue maternelle. Un français qui naît en France, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour parler français. Bon, il aura des petites fautes, mais il va parler français. Les arabes de l'époque, c'était leur langue maternelle, ils maîtrisaient parfaitement l'arabe. Et quand l'islam a commencé à se propager, et d'autres populations non arabophones ont commencé à se convertir à l'islam, les musulmans de l'époque ont senti la nécessité de mettre en place les règles de grammaire, etc. Donc ils ont revu leur langue, ils ont écrit les règles, mais à partir de la langue. Ils n'ont pas mis des règles, ils ont appliqué l'arabe aux règles. Ils ont regardé l'arabe, ils ont déduit des règles. Du coup, quasiment toutes ces règles ont des exceptions. Alors, parce que c'est à partir de la langue qu'on établit les règles, et non pas le contraire.
Qu'est-ce que dit le Coran de l'électricité, de l'énergie nucléaire, plutôt de la télévision?
Le Coran n'est pas un livre de technologie ni de science. Il y a quelques connaissances scientifiques qui sont dedans. Nous, on ne les choisit pas.
C'est bien ce que je pense.
Oui, il n'y a pas tout dedans.
Donc,
il y a certaines vérités
scientifiques. Adapter des règles coranique sur l'électricité, l'énergie nucléaire ou la télévision, pour prendre ces trois exemples, ou le téléphone.
Oui, c'est quoi la règle qu'on va appliquer? Il n'y a pas besoin.
Il y a certaines règles du Coran qui sont appliquées littéralement malgré un décalage de plusieurs siècles,
oui.
Et d'autres qui sont appliquées par conséquent avec une interprétation moderne.
Oui, alors par rapport à la nécessité, par exemple, qu'est-ce que vous voulez qu'on interprète ?
Le muezzin avant appelait à la prière par le son de sa voix.
Tout à fait.
Comment peut-on autoriser à ce que ça soit fait avec un micro et un haut-parleur ?
Il n'y a rien qui rend obligatoire. Le but du muezzin, c'est de prévenir les gens que c'est l'heure de la prière. Mmh. Donc à l'époque, c'était sa voix, il se mettait sur le toit et il appelait les gens à la prière. Maintenant qu'il y a la sono, il tue toujours sa voix, et sauf qu'au lieu de crier, au lieu de se mettre à 18 mètres de hauteur pour que sa voix porte, il n'a pas besoin de faire ça, il va parler doucement, mais grâce à la technologie, il peut porter sa voix effectivement auprès de ses fidèles. Mais sur le plan religieux, il n'y a rien que la tradition.
C'est une interprétation.
Pourquoi c'est une interprétation ? Non, le but, on a un objectif.
Dans une analyse plus littérale, on pourrait dire, c'est le muezzin qui doit appeler, on doit entendre sa voix directement.
On l'entend.
Vous confondez l'acte d'adoration lui-même et le moyen.
Le moyen. Là, c'est une question de moyen. Les moyens sont libres.
Les moyens, on les adapte.
Les mosquées à l'époque, elles n'étaient pas faites comme ça. Elles étaient faites avec des branches de palmiers.
Mais les moyens, c'est pareil.
Ils sont libres.
La femme doit être discrète. N'est-ce pas ?
Enfin, les hommes aussi.
C'est
les hommes
aussi.
Ah oui, pas que la femme, elle
doit être discrète.
Comment ?
Elle doit avoir un comportement discret.
Bah, l'homme aussi, enfin, non, un comportement discret, il n'est pas extravagant.
On a traduit ça avec le moyen, avec un voile plus ou moins grand.
Ah non, le voile n'a rien à voir avec le comportement. Il y a des femmes qui portent le voile, mais le comportement.
Oui,
il y en a d'autres qui portent le voile.
Oui,
c'est
le
voile.
Ah oui, le moyen est moderne, c'est le comportement,
c'est pas.
Ça vous dit, donc la
ça, on est bien d'accord.
C'est un moyen, donc là, le pantalon est différent de sa femme.
Bah, moi aussi, je n'ai pas le droit de m'habiller avec un pantalon troué et déchiré, je n'ai pas le droit de m'habiller avec un débardeur comme bien frisé, on a des conditions, donc c'est qu'on a respecté.
Ah oui, non, mais c'est quand on vient à la prière du vendredi. À l'époque, il venait à prier en chameau, maintenant, c'est venu en taxi, on est revers, on
perd. Les moyens ne sont pas.
La finalité, c'est de faire la prière.
C'est ça, c'est la finalité. Notre objectif est déterminé. Mais les moyens qu'on doit
avoir, c'est sur le courant.
En général, les moyens sont libres, ils sont ouverts. À partir du moment où il n'y a pas de contre-indication avec les textes. Textes de base. Donc, moi, je vais me rafraîchir avec une boisson rafraîchissante. Je sais que les boissons alcoolisées sont interdites. Mais toutes les autres boissons sont permises. Donc, à partir du moment où il y a de l'alcool dedans, je sais que c'est interdit. Mais tout le reste est permis. Donc, je sais. Donc, être discret, c'est une chose. Mais m'habiller, nous, ma maison, on n'a pas le droit de s'habiller n'importe comment. Vous voyez que les femmes le font, mais nous aussi. Enfin.
Vous disiez tout à l'heure que l'imam était salarié. Il est salarié par l'association. Chaque mosquée salarie son imam.
C'est ça. En fait, l'association, c'est l'outil juridique hein, qui est vis-à-vis de l'État. Ouais. Dans les pays musulmans, c'est le ministère des cultes qui gère les différents lieux de culte. Ici en France, c'est pas le cas. Donc, c'est chaque association, chaque communauté de fidèles va s'organiser une association pour couvrir son lieu de culte et elle va salarier l'imam par le biais des dons des fidèles.
D'accord. Donc, tous les imams
local,
ne sont pas salariés dans les mêmes conditions.
Ah
ça
non,
dépend
pas du
de
tout. On n'a pas y a plus d'énergie en islam. Hein. Il y a le CFCM en France pour organiser son plan administratif, mais on ne dépend pas obligatoirement du CFCM. On n'a pas de carte d'adhésion au CFCM. L'imam n'est pas adhérent du CFCM, etc. C'est une organisation administrative. Mais l'imam dépend de la communauté de ses fidèles, donc de son association.
Donc c'est vous qui négociez le salaire de l'imam avec lui en tant que président de l'association.
Oui, il y a un conseil d'administration, il y a 12 membres du conseil d'administration qui
est. Et peut-être, Yacine, vous pouvez expliquer comment il est choisi à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Comment il est choisi, effectivement. Donc, pour être imam, il y a un certain nombre, il y a un minimum requis. Le minimum requis, c'est de connaître la parole de Dieu, en général, donc par cœur, du début jusqu'à la fin. Connaître les textes les plus courants dans les hadiths, les textes du prophète. Maîtriser l'arabe, parce que c'est quand même la langue officielle de l'islam. Et pouvoir leur transmettre aux fidèles la connaissance et organiser le culte. D'accord. Donc après, c'est à l'association dans une mosquée de choisir librement son imam qui remplit ses conditions. Ouais. Après,
vous conviendrez que c'est pas évident, parce que je comprends tous les principes que vous avez indiqués, mais pour mettre ça en œuvre, ça doit pas être facile.
Bah, pour nous, c'est une condition de base.
Non mais d'accord, mais pour mettre concrètement en œuvre, quand vous dites connaître la parole de Dieu, comment vous...
Ah bah, il y a des millions de musulmans qui connaissent la parole de
Dieu. Non mais d'accord, mais comment vous faites pour estimer qu'il connaît...
Ah bah, il est testé, il a... Ça, c'est pas compliqué. On prend le livre, page 500, la troisième ligne, on lui donne le truc, il continue. C'est facile, mais c'est pas le problème.
En fait, c'est vraiment pas ça le problème de l'imam. Hein. C'est pas de connaître la parole de Dieu par cœur. C'est quasiment tous les imams la connaissent, à part quelques exceptions. Hein. C'est ça. C'est l'explication, l'adaptation à la communauté, l'explication certaine. Il y a des textes qui sont clairs. Hein. Faire la prière, c'est clair. Faire le ramadan, c'est clair. Il y a d'autres textes qui sont une bonne partie des textes coraniques qui sont beaucoup moins clairs, qui sont quatre interprétations. Donc il faut avoir effectivement le même esprit. Il y a des gens qui sont plutôt dans l'esprit littéral des textes, donc ils sont vraiment à cheval sur les moindres détails. ce qui n'est pas notre mentalité ici. Donc on peut, il y a dans d'autres mosquées, ils vont choisir des imams qui sont comme là, qui ont cet esprit-là. C'est ça qui est le plus dur. C'est pas de trouver un imam qui connaît le Coran par cœur, ça c'est très courant.
Mais par certaines mosquées. Est-ce que la prière peut être organisée par quelqu'un qui n'est pas imam?
C'est ça, exactement. Donc on peut aussi avoir, après l'imam, donc c'est la fonction officielle, si l'imam est absent, il y a des jours où il n'est pas mort, le samedi il n'est pas là aujourd'hui, si un jour il est malade, il est en retard, il peut être organisé par n'importe quel autre fidèle de la communauté qui ait ses connaissances ou qui s'approche de ses connaissances. Il faut connaître la prière, il faut aussi savoir rectifier, en fait, on peut se tromper pendant la prière parce qu'il y a un certain nombre d'actes et de paroles à faire. Il arrive ou à l'imam de se tromper, il faut qu'il sache la rectifier. Ça, c'est vraiment des conditions nécessaires. Donc, la communauté fidèle choisit entre eux l'un qui estime avoir ses connaissances, en toute façon l'approcher pour diriger la prière, soit de façon exceptionnelle, pour l'absence de l'imam, soit il y a dans certaines mosquées où il n'y a pas d'imam. Pas d'imam. On ne peut pas trouver. Hein. Ça existe. Surtout dans les petites mosquées.
Vous êtes pour l'image quand même. Pourquoi vous dites rectifier la prière?
On peut rectifier. On peut se tromper pendant la
prière. Elle n'est pas fixée.
Si, elle est fixée, mais on peut se tromper. On peut se tromper.
Mais du coup, la formation des imams, tout ce qui est instituel, Ghazali ou institué en 91, il n'y a pas une obligation de suivre des cours théologiques?
Du tout.
Du tout.
Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, c'est des instituts autonomes qui ont été ouverts depuis quelques années, peut-être courant, je pense, qui ne sont pas réservés qu'aux imams d'ailleurs. C'est ouvert à tous les musulmans, n'importe qui peut y aller. Après, les imams, ils recommandent effectivement de suivre une formation dans l'un de ces instituts, mais ce n'est pas du tout une obligation, en tout cas pour le moment. Il y a des imams qui sont formés de façon
autodidacte. Les imams, par exemple, qui viennent de l'étranger, qui sont formés.
Ah oui, non, c'est ça, ils sont bien formés, exactement. Il y a des imams qui sont nés en France, des enfants de France, qui sont nés en France, qui sont formés de façon autodidacte auprès d'enseignants à gauche et à droite.
C'est pas une obligation.
C'est pas du tout une obligation. Il faut avoir un certain niveau, mais la formation, si ça sort d'un institut reconnu, c'est très bien, mais il n'y en a pas autant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont formés, mais ils ne vont pas tous devenir imams, malheureusement. Donc, du coup, il y a une pénurie d'imams qualifiés et formés en France. Et c'est pour ça d'ailleurs que certaines mosquées vont chercher des imams dans certains pays parce qu'ils n'en ont pas ici. Donc il y a des gens qui vont dans ces instituts, mais leur but c'est de se former personnellement, pas de devenir imam, ils ont leur métier, etc. Mais ils veulent se former. Parce que la formation, l'imam une fois de plus, c'est pas un métier en tant que tel. Maintenant ça devient un métier parce qu'il y a plein de choses. Mais à l'époque, l'imam, il était imam et par ailleurs il était commerçant ou berger ou auteur, ou il avait un métier. L'imam c'était en plus.
Et du coup, ça vous pose pas, enfin peut-être vous n'avez peut-être pas de problème ici à Aulnay, mais ça pose quand même des sujets sur d'autres mosquées. Mosquée, pour le coup, le profil de l'imam autoproclamé peut effectivement poser des soucis. Donc, comment est-ce que vous cadrez ou vous accompagnez ce...
Je vous ai dit que la mosquée dépend de sa communauté fidèle et donc de l'association sur le plan juridique qui gère cette mosquée. Donc, c'est à elle de chercher cet imam-là. Donc, si le profil des gens qui gèrent cette association et des fidèles et des... ils vont chercher un imam de leur profil à eux.
Dans la religion musulmane, l'imam est le seul intermédiaire, il n'y a pas d'autre.
Il n'y a pas d'intermédiaire.
C'est pas
l'organise.
Il n'y a pas d'autre style de fonction. Par exemple, dans la religion catholique, vous avez les prêtres, les diacres, etc.
Il n'y a pas de clergé.
C'est imam, point imam.
Et puis les imams, peut-être plus de mon confrère, il y a des imams savants.
Hein. Bien sûr, bien sûr.
Il y a un bon degré dans la connaissance.
D'accord, ok.
Mais c'est imam.
C'est imam.
Il y a des imams qui sont plus calés que d'autres. Ils font du coup parler des.
Sauf chez les chiites. Il y a un clergé.
Ah oui, c'est ça. Là, je parle de l'islam sunnite,
qui
est extrêmement majoritaire. Chez les chiites, il est dans l'organisation sous forme de clergé. Pas aussi détaillé que le clergé catholique, mais qui, effectivement, il y a une certaine hiérarchie qu'il faut respecter. Là, je vous parle de l'islam sunnite et l'islam majoritaire.
Un point qui est important que vous avez relevé, c'est que c'est chaque association qui est maître de qui est désigné comme imam.
C'est ça.
Donc, qui prend le pouvoir de l'association culturelle,
a
le pouvoir de désigner.
Exactement. Bah, l'association découle de ses fidèles. Donc, ses fidèles choisissent les membres de l'association qui ont choisi
d'avoir une association.
Formellement,
ça relève du droit privé. Vous
avez des fidèles adhérents de ces associations.
Oui, c'est pas tout, hein, parce que
c'est une association de loi de
1901 ou 5 pour certaines. Ah, oui. Parfois, c'est plutôt 1, ou parfois, c'est 5. Donc, les fidèles, tous les fidèles ne sont pas adhérents. Il y a des fidèles qui viennent prier, mais ils ne sont pas adhérents. C'est ouvert, c'est libre.
Ceux qui votent.
Le noyau. Ceux qui votent, ils sont adhérents. On n'a pas le droit de vote. Le noyau constitué par cette mosquée, par celle-là. Là, on a une autre mosquée beaucoup plus ancienne où les fidèles qui sont les parents, les grands-parents ont fait du porte-à-porte pour ramasser les 750 000 francs de l'époque pour acheter un petit pavillon pour que ça devienne une salle de prière. Donc là, c'est le noyau constitutif. Donc les fidèles qui constituent le noyau de la mosquée font partie de l'association.
Il y en a d'autres combien, qui viennent.
Hein?
Il y en a combien ici?
Nous, on a une centaine.
Ah oui, vous n'êtes pas plus. Ah,
qui font partie
de l'association. Ouais, ouais. Ah, oui,
et vous savez, c'est pas des obligations. Il n'y a pas besoin de d'avoir la carte de l'association pour bien
payer. Oui, vous avez, mais, vous avez dit tout à l'heure qu'on peut être associé.
1905, c'est une congrégation. C'est pas une association culturelle.
Culturelle,
d'accord. Il n'y a pas des obligations de reverser quelque chose.
Oui, tout à fait.
Donc, ce qui n'est pas une obligation en fait de la loi
1901.
Mais du coup, vous êtes, vous, personnellement, enfin voilà, je me permets de vous poser la question, vous êtes plutôt favorable à une professionnalisation des imams?
Oui.
D'accord.
Pas que moi d'ailleurs, hein. Enfin, il faut. Ah oui, tout à fait. Parce que maintenant, je vous ai dit, à l'époque, c'était même pas une fonction, on assurait l'organisation des fidèles, on a un métier. Maintenant, le nombre de fidèles est important, tout est organisé dans la société, hein. On n'est pas au Moyen-Âge, donc il faut professionnaliser, il faut former ces gens. Comme ça, il faut les former par des gens compétents, hein, on va pas les laisser se former tout seuls, et puis on n'aura pas des gens qui vont se former un peu bizarrement. Je pense que l'extrême majorité des musulmans sont, enfin, en tout cas en France, sont favorables à cela. Hein. Oui, c'est une réclamation même.
L'association ici, elle est culturelle.
Culturelle.
1901. Il y a peut-être 100 adhérents pour 2500 fidèles, oui, à peu près.
Mais 2500 fidèles le vendredi, donc il y a des gens qui travaillent.
C'est-à-dire qu'il y a 2500 personnes qui pourraient potentiellement adhérer.
Ah oui, si, mais les 100, c'est vraiment le noyau.
Et donc ça peut changer même sensiblement l'orientation
de la société. Ah,
parce que si demain il y a
des gens de l'entrisme.
Tout à fait. Oui, tout à fait, c'est possible. On n'est pas à l'abri.
Parce que vous ne filtrez pas les adhésions.
On ne filtre pas, mais il y a un certain nombre de conditions. Il faut fréquenter la mosquée régulièrement. On ne va pas accepter comme adhérent quelqu'un qui vient de plus tôt, qui travaille à Holbe, qui vient que le vendredi. Il faut une fréquentation minimum de la mosquée.
Ah oui,
il y a un certain nombre de conditions.
C'est sur cooptation.
C'est un ingrédient, mais il y a un certain nombre de conditions.
On ne peut pas faire d'entrée.
Ah non, on ne peut pas faire d'entrée du jour au lendemain. Ce n'est pas.
Il faut être musulman quand même. Il faut des
fonds.
Pour une association de 1901, c'est pas possible de limiter les.
Mais tout à fait, mais nous, ça fait partie des conditions. Il faut fréquenter la mosquée, il faut venir régulièrement à la mosquée. Donc c'est vraiment des gens qui fréquentent la mosquée. Il peut ne pas habiter à Aulnay, mais venir ici régulièrement avec sa voiture, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un qui vient une fois de temps en temps, qui veut avoir juste la carte, ça passera pas.
Comme une association avec...
Parce qu'il y a un certain nombre de... Il y a un règlement derrière. Est-ce qu'une femme qui fait imam, traditionnellement, non. Pour l'instant, non.
Il y a des aumônières.
Oui, des aumônières, il y en a aussi. Est-ce que c'est interdit? Enfin, je ne suis pas théologien, hein, je ne suis pas rentré là. Je ne suis pas théologien, mais traditionnellement non, parce que l'imam, il sert pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est un seul imam qui gère qui est là pour organiser la prière de tout le monde. Donc traditionnellement, jusque-là, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il y a des textes qui l'interdisent? Ah oui.
Je parle pour hommes et pour femmes.
Pour hommes et pour femmes, oui.
Est-ce qu'une femme, est-ce que c'est interdit? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer que votre association culturelle, 1901, puisse recruter dans les jours, dans les années à venir, une femme qui serait...
Non, on n'invente pas aussi ce qu'on veut, hein. L'association c'est une chose, mais après dans l'exercice du culte, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que nous on suit la vie, parce qu'il y a quand même des savants dans le monde entier qui donnent des directions. Si les savants du monde musulman décident ça, nous on suivra, mais on ne peut pas dans notre coin décider, nous on va mettre une femme imam, mais c'est réglé, quoi. C'est pas comme ça. Il y a un certain nombre de directives.
Directement, vous dites que c'est pas possible.
Ah, là, actuellement, oui. Ouais.
Mais est-ce que ceci étant.
Mais vous avez... c'est un texte.
Vous n'avez pas de hiérarchie.
Non.
Donc, vous pourriez quand même en prendre l'initiative.
Dans
la théorie.
Théorie. Mais en pratique, on ne sait pas. On n'est pas là pour offenser les fidèles. C'est ça.
Il est où? Enfin, qu'est-ce qu'il dit, par exemple, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un islam réformiste?
Ça dépend ce qu'on entend de réformiste.
Par exemple, sur la place des femmes, sur la place des jeunes, sur
la place des femmes, elle a plus
prêche en français, par exemple.
Ah, ça, il n'y a pas de problème. Personne, on n'a pas besoin de réformer l'islam pour. Les pays, je vous l'ai dit, hein, l'islam a commencé en Arabie, mais en moins d'un siècle, il est arrivé à Sens, donc à 100 km de Paris, et en Inde. Donc les populations non musulmanes étaient majoritaires de tout temps, non arabes. Les populations non arabes, pardon, étaient majoritaires depuis toujours. Donc, faire un prêche pas en arabe, c'est pas une nouveauté. Enfin, en France, on le voit aujourd'hui, mais c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que les musulmans qui étaient en Espagne, il y avait des hispanophones qui ne parlaient pas l'arabe. Donc, c'était avec leur langue de l'époque. Et puis, en Indonésie, qui est quand même le pays musulman le plus peuplé, ils ne parlent pas l'arabe. Hein.
Donc ils font avec leur langue, et d'ailleurs ils font plusieurs langues, ça dépend de ce qu'on est en Indonésie, en Malaisie c'est la même chose. En Chine il y a quand même 100 millions de musulmans, c'est une petite minorité en Chine, mais ça fait la moitié de tous les Arabes du monde, hein. 100 millions en Chine. Oui, entre autres. Et puis le Turkestan oriental, etc. Ils sont 100 millions, ça fait même pas 8% en Chine, donc c'est une petite minorité, mais c'est la moitié du monde arabe. D'accord ? Donc ceux-là, ils ne parlent pas arabe, donc le discours est en chinois. De même que les Iraniens. Les Iraniens, ils font partie des premières populations converties à l'islam, ils sont tout proches de l'Arabie. Et au jour d'aujourd'hui, les Iraniens ne parlent pas l'arabe, à part quelques-uns. Les lettrés parlent l'arabe, leur langue perse est écrite en lettres arabes, mais leur langue quotidienne, c'est le perse. Et c'est pas, donc ça fait 14 siècles que ça dure, c'est pas une nouveauté. Il y a des choses, ça pose problème actuellement en France, et nous, pour nous c'était automatique, hein, ça n'a jamais posé problème. Le fait que le prêche soit en bilingue, ça fait plus de 20 ans qu'on le fait. Les anciens imams des années 80, effectivement, ils venaient d'Algérie, donc ils ne parlaient pas forcément français, mais très vite, depuis les années 90, les imams font le discours en français, mais ce n'est pas une réforme, ce n'est pas du tout une réforme.
Excusez-moi, je reviens aux femmes, est-ce que ça vous surprendrait, est-ce que ça vous attirerait qu'une femme devienne imam?
Déjà entre nous, on le fait.
Ouais. Mais, là, dans une mosquée, un vendredi, avec hommes et femmes.
On vient de surprendre, dans quel sens?
Est-ce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer?
Alors, actuel,
ou est-ce
je.
Quelque chose un espoir que vous caressez
Un espoir, quand on dit espoir, c'est-à-dire qu'on a envie que ça arrive à là. Moi, personnellement, j'ai pas envie que ça arrive à là. C'est-à-dire que c'est pas, ça ne régit pas ma vie. J'attends pas tous les soirs avant de dormir, je me dis, j'espère qu'il y aura une femme.
C'est ça, c'est pas une obsession, quoi.
Oui, ce que je veux dire. À titre personnel, c'est à titre personnel. Voilà, c'est bien différent, voilà. Donc ça, c'est des mosquées qui le font, mais moi, je ne le vois pas comme une priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont plus importantes pour l'Église.
Ah oui, c'est pareil. Ça, c'est pour vraiment le faire de l'Église.
Voilà, c'est ça.
Des autres, je ne sais pas que ça change. Oui. Des femmes vont dans les prisons.
Après, vous parlez à titre personnel ou au niveau de la religion? À titre personnel, en tant que femme, est-ce qu'on est inspiré? Moi, à titre personnel, je ne le ferai pas. Parce que quand on est aumônier, on est debout.
Moi, je crois que tu as dit la prière. Je crois que tu regardes la
position. On se prosterne en tant que imam, mais en tant que femme, je crois qu'il y a des femmes dans l'assemblée.
J'ai vu ses yeux briller, je croyais qu'elle
était en train de prosterner comme ça pendant 5 minutes avec plein d'hommes derrière moi. Déjà, la position de la prière, elle me dérange. En tant que femme, déjà. On est prosterné quand on
prie.
Gestes. Donc, je vais pas faire un dessin, mais moi en tant que femme, à titre personnel, je sais pas les femmes qui sont présentes, ça me dérange d'être prosternée comme ça. Voilà.
Mais comme elle a dit, c'est pas une obsession, hein. C'est pas du tout un souci pour nous. Il faut savoir que les femmes de tout temps, hein, enfin, il y a des femmes savantes dans l'islam depuis le 7e siècle. C'est pas une nouveauté pour nous. Ah oui, enfin, depuis le 7e siècle. C'est pas un truc occidental récent, enfin, moderne du 20e siècle. Depuis le 7e siècle, il y a des femmes savantes qui sont réputées connues. La fondatrice de la première université au monde, encore en activité, c'est l'activité de Fès, c'est une femme.
Où ça?
À Fès. Ah, oui. Fatima Al-Fahriya, elle a fondé cette université au 8e siècle. Et c'est une université qui est encore en activité au jour d'aujourd'hui. Et la fondatrice, c'est une femme. Les femmes lettrées en islam, ce n'est pas du tout une nouveauté. Hein. C'est pas un truc extraordinaire. Aïcha, l'une des épouses du prophète, et elle a enseigné plusieurs savants, qui sont devenus des savants par la suite. C'est vraiment pas une nouveauté pour nous. De même que le discours dans une autre langue que l'arabe, c'est des choses qui sont très anciennes. Après, ce qui est important pour nous, c'est vraiment adapter effectivement le discours à l'époque. Il y a des choses qui ont changé, l'électricité, tout ça, on ne va pas interdire. Effectivement, il y a des gens qui prennent les choses à la lettre, il y en a d'autres, l'extrême majorité des musulmans ne prend pas du tout les textes à la lettre. Hein. Mais il y a quelques personnes, effectivement, qui existent, qui sont une minorité, mais qui existent. Bon, après, c'est leur liberté, on ne peut pas les obliger à faire autrement. Mais ce n'est pas du tout le courant majoritaire dans l'islam aujourd'hui, en tout cas, ni dans les pays musulmans, ni en Occident. D'ailleurs, même dans les pays musulmans, le courant le plus répandu et connu, c'est le courant qui s'adapte et qui vit, parce qu'il faut qu'on vive son époque. Hein. On ne peut pas vivre au Moyen-Âge alors qu'on est en 2018.
Yacine, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur... Pardon, qu'est-ce qu'il dit? Ah, pardon. Peut-être refaire un point sur les grandes fêtes ou les moments qui rythment la vie d'un musulman.
Ah oui,
Est-ce qu'il y a des fêtes pour la naissance,
tout à fait, oui.
Le mariage, oui. Et la place de la mosquée là-dedans, de l'imam.
Alors, justement.
Vous avez évoqué la mort tout à l'heure.
Oui, on a évoqué la mort.
Et pas les phases d'avant.
Pareil, contrairement, parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont imprégnés de la religion catholique. Il y a beaucoup de différences par rapport à l'islam. L'islam, on est plutôt dans une vie civile. C'est-à-dire qu'on n'a pas la distinction entre les hommes ou les femmes de religion et les hommes, les laïcs, quoi. C'est-à-dire des laïcs chez les chrétiens. L'islam, pour nous, c'est la vie. On est musulmans, on vit notre islam et en même temps, on vit notre vie. D'accord ? Donc, quand on dit les fêtes, par exemple, en parlant des fêtes, l'équivalent du baptême, on appelle ça l'Aqiqa, c'est une fête qu'on fait effectivement à la naissance, après la naissance d'un nouveau-né. Traditionnellement, 7e jour, le 14e, le 21e ou 28e jour après la naissance. Si on a pu l'organiser pendant cette période-là, sinon c'est plus tard, pas de problème. Ça ne s'organise pas dans une mosquée, ça s'organise chez soi. Et on invite effectivement la famille, les amis, les voisins, etc. Il est recommandé de faire un sacrifice, un mouton en l'occurrence, et puis d'offrir à ses invités, et puis d'offrir surtout à des pauvres. Donc la place des pauvres est vraiment importante en islam. Donc réserver une partie parce qu'à l'époque c'était les gens avaient besoin de nourriture. Hein. Maintenant c'est moins le cas. On peut faire un don par rapport à ça. Donc ça c'est important. C'est ce qu'on appelle la aqiqa. C'est l'équivalent du baptême, mais c'est pas au sens religieux. Parce que le baptême c'est quand même religieux. Oui, on baptise un enfant pour qu'il devienne catholique.
Il n'y a pas de sacrement.
Ah non, il n'y a pas de sacrement. On n'a pas du tout ça. Donc on fête la naissance de ce nouveau-né. Mais c'est pas pour dire ça y est, il est obligé d'être musulman jusqu'à la fin.
Et dans les pays musulmans, ça constitue l'état civil ou pas?
Non, c'est une fête. L'état civil, c'est l'état civil. Ouais, l'état civil, c'est l'état civil. Donc c'est vraiment, c'est dans la vie. C'est pas, il n'y a pas de sacrement. Hein. C'est pas dans une mosquée, on ramène l'enfant, on lui fait quelque chose de particulier. Hein. Par contre, il y a des choses aussi qu'on fait à la naissance de l'enfant, c'est de lui faire l'appel à la prière dans son oreille. Mais ça, c'est les parents qui le font. Ils ne vont pas ramener un imam pour le faire. C'est ça, à sa naissance. Alors, on lui fait l'appel à la prière, mais c'est les parents qui s'en occupent. C'est vraiment parce que l'islam, nous, c'est dans notre vie. Donc la mosquée, elle est là pour organiser le culte, pour faire la prière, pour faire la prière du vendredi, etc. Mais une bonne partie de la religion s'applique à domicile, enfin dans notre vie quotidienne. Après, il n'y a pas de fête particulière. Chez les juifs, il y a la bar mitzvah à la puberté. Nous, on ne fait pas de fête particulière. Comment ? La circoncision, pareil, ce n'est pas un acte religieux. C'est-à-dire que c'est traditionnel, c'est fait chez les musulmans, l'ensemble des musulmans, mais un musulman qui n'est pas circoncis ne fait pas de lui un non-musulman. Ce n'est pas d'une règle, ce n'est pas d'une obligation. C'est une recommandation forte, effectivement, qui a un texte, un hadith du prophète, salat wassalam. Donc l'extrême majorité des musulmans le font, mais si un musulman ne l'a pas fait, ou si quelqu'un s'est converti à l'islam, il a 40 ans, il ne faut pas que ce soit une obsession pour lui d'aller se faire circoncire, sinon il n'est pas musulman. Donc c'est pas du tout.
Ça limite les vocations.
Ah,
ça limite les vocations.
Ah, bah c'est limite les vocations, effectivement. On n'a pas de limite de vocation de ce sens-là. Les piliers du sable, c'est les 5 que je vous ai cités, il n'y en a pas d'autres. Tout le reste, c'est en plus. Donc on ne peut pas sortir de l'islam parce qu'on n'est pas circoncis, on ne peut pas sortir de l'islam parce que nos parents n'ont pas fait la fête de la naissance. Non, pas du tout. Donc la circoncision, c'est quelque chose de traditionnel qui est fait effectivement. Et puis après, donc à la puberté.
La circoncision a la même provenance que chez les juifs, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac qui est...
Oui, enfin, on considère qu'Abraham, c'est une tradition. C'est ça, c'est l'alliance d'Abraham. C'est la tradition d'Abraham. C'est la même. La source est Dieu, c'est la même source. Hein. Le Dieu est le même pour les juifs, les chrétiens ou les musulmans, c'est le même. Hein. Donc on a beaucoup de choses communes, effectivement.
Donc la circoncision, c'est.
Oui, c'est une tradition abrahamique. D'Abraham. C'est la même. Effectivement. C'est la même. C'est tout pareil. Après donc
la prochaine. La circoncision, elle se fait à quel âge?
Il n'y a pas d'âge précis. On le fait pendant la petite enfance pour que l'enfant n'ait pas de souvenirs particuliers. Donc en général, les gens le font entre 1 an et 2 ans. Mais il n'y a pas d'âge. Il y en a qui le font plus tôt. Il y en a même chez les juifs, ça se fait à la naissance ou au 7e jour. Hein. Ça se fait très très tôt. Il y a certains musulmans qui le font aussi à la naissance, mais c'est pas. Moi, je vous parle de cas majoritaire, c'est entre 1 an et 2 ans. En général, on dit qu'il faut que l'enfant marche pour faciliter la cicatrisation. Il n'y a pas de date précise. Mais on ne le fait pas à 10 ans, on y a 20 ans. Quoi. Par les gens convertis qui veulent le faire. Mais sinon, c'est vraiment dans toutes les premières années de vie. Après, donc, il y a le mariage, effectivement, ça c'est important. Mais une fois de plus, c'est un acte de la vie civile. Le mariage en islam, c'est pas un acte religieux, c'est un acte de la vie civile. De la vie civile.
Il y a une bénédiction quand même.
C'est ça. C'est une bénédiction. Le plus important, c'est pas la bénédiction, c'est le respect des conditions du mariage. Si les conditions sont respectées, le mariage est célébré. Il n'y a pas besoin de faire ramener l'imam, mais traditionnellement, les gens ramènent l'imam effectivement pour célébrer cela. Mais ça ne fait pas de ça un acte de la vie religieuse. On ne le célébrera pas dans une mosquée d'ailleurs. Dans certaines communautés, par exemple, quand on va chez les Indiens, les Mauriciens, ils le font dans des mosquées. ils viennent avec la famille, etc., à la mosquée pour célébrer l'acte de mariage, et puis ils vont faire une fête chez eux. Chez les maghrébins, ce n'est pas le cas. C'est l'imam qui se déplace, qui va aller au domicile en général de la mariée, où les invités proches sont là pour célébrer le mariage. Et une fois de plus, ça reste un acte de la vie civile. Mais l'imam est ramené effectivement pour les bénédictions.
Il y a eu beaucoup de polémiques sur cette histoire d'imam qui participe à la soirée familiale.
Oui.
Parce que beaucoup de personnes l'utilisaient comme un acte.
Ah oui, ce qui n'est pas vrai.
Et en fait, souvent, les couples se séparaient pour X ou Y raisons, et on a eu un vrai problème. Donc, il y a eu tous les réseaux consulaires des pays maghrébins principalement, qui ont donné des consignes en disant attention, il ne faut pas que l'imam soit là pour une bénédiction, pour une fatiha, pour
bénédiction
au couple, mais en aucun cas ça ne devient ce que nous on fait en mairie, c'est-à-dire célébrer
le civil.
Ça a été une grande polémique. On a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés donc vis-à-vis de la société mariée par l'imam, alors qu'ils n'étaient pas mariés, et ça a créé beaucoup de difficultés. Donc
d'ailleurs,
c'est un hola qui a été mis.
C'est un délit pénal pour n'importe
qui. Non, du coup, effectivement.
Si c'est un mariage, il n'a pas un certificat.
C'est ça. Donc ça peut être une bénédiction, effectivement, mais ce n'est pas un mariage.
7000 euros d'amende. Non mais c'est un vrai problème parce qu'un prêtre catholique le ferait. Les seules poursuites à l'heure actuelle qui ont lieu, les très rares poursuites, ce sont sur des prêtres catholiques. Ça n'est pas du tout sur des imams, alors qu'on voit un développement des mariages religieux musulmans selon cette modalité, c'est un peu comme aucun mariage civil n'a été célébré à la
mairie. Nous, du coup, en tout cas, dans une bonne partie des mosquées de France, ici en particulier, on ne se déplace pas tant qu'on n'a pas le livret de famille. On viendra le jour même. Donc on dit qu'on passe quand à la mairie, ils passent, je sais pas, le 10 décembre à 15h. Donc nous on y va le 10 décembre à 18h pour faire la célébration. C'est vrai que ça a posé quelques problèmes. Mais pour éviter cette confusion.
Dans l'esprit de fidèle, plus que dans
exactement. Mais dans les textes, il faut passer à l'état civil. Dans nos pays d'origine, il y a un lien entre les imams et les états civils. Ça dépend. Au Maroc, c'est des Adouls, en Algérie, etc. Mais il y a un lien. Donc, quand c'est fait religieusement, c'est traduit forcément à l'état civil. Mais en France, ce n'est pas le cas, parce qu'on est un pays laïque. Donc il faut exiger, effectivement, soit le certificat de mariage ou le livret de famille.
Ça n'est plus le cas.
Ça n'est plus le cas.
Jusqu'à la révolution.
Un peu plus d'un siècle. Oui.
Jusqu'à la révolution, c'était les curés.
Tout à fait, oui, exactement. Donc nous, dans le pays, ça continue à être comme ça. Mais les gens, du coup, il y a une confusion qui a été créée. Bon, ça se passait bien jusqu'à aux années 80-90. Maintenant, il y a eu.
C'est un phénomène.
Avant, on avait très peu de divorces. Maintenant, malheureusement, il y en a de plus en plus. Alors, du coup, quand les gens divorcent alors qu'ils ne sont même pas passés à la mairie pour se marier, du coup, est-ce que ça avait un divorce?
Tout
à fait.
Moi, j'ai une question plus. C'est l'élu occulte qui s'adresse à vous. La conduite du projet bail amphithéotique, achat du terrain, comment ça s'est construit cette
Merci.
Peut-être on peut finir sur les.
Oui, finir sur les.
Alors, le mariage, on en a parlé. Après, c'est la mort. On n'a pas beaucoup de fêtes en fait, parce que vraiment c'est la vie civile.
L'Aïd el-Fitr.
L'Aïd, ça n'a rien à voir avec la vie d'une personne. On peut en parler sur l'année, mais là il nous parlait de la vie d'une personne donnée de la naissance jusqu'à la mort. Donc au moment du décès, effectivement, il y a un certain nombre de choses à respecter, mais une fois de plus, il n'y a pas besoin d'un imam. On n'appelle pas un imam parce que la personne va mourir, quoi. Et puis du coup, il pense que l'imam est arrivé, donc la personne va forcément mourir tout de suite, ou dans une heure, dans deux heures, non, c'est pas ça du tout. Donc quand il y a une personne qui est souffrante, qui est malade, etc., une personne âgée qui finit sa vie un peu difficilement, des morts brutales, c'est des morts brutales, on ne veut rien, mais des morts un peu progressives, l'imam se déplace à la demande de la famille, il ne se déplace pas... obligatoirement, c'est la famille qui l'appelle. Si elle l'appelle, il se déplace pour aller réconforter un peu la famille, parler un peu avec la personne si elle est en état d'écouter, réciter du Coran, effectivement, si c'est possible, et faire plutôt des rappels pour l'ensemble de la famille à l'occasion de la mort, parce que c'est un événement qui va toucher chacun d'entre nous. Donc c'est une occasion de faire un rappel. Une fois que le décès est proclamé, en général, dans nos pays d'origine, l'enterrement se fait en moins de 24 heures. Ici, c'est un peu compliqué parce qu'il faut organiser le rapatriement du corps, s'il faut le rapatrier, etc. Donc, il y a le lavage mortuaire qui est réalisé et une prière qui est faite à la mosquée dans la foulée, et puis l'enterrement. Donc, en général, les décès du soir sont enterrés dans la matinée, les décès du matin sont enterrés dans l'après-midi. C'est très rapide. Bah, en France, ce n'est pas le cas parce qu'il faut toutes les démarches administratives. Mmh. Ah, c'est le week-end, il y a plus de... tout est fermé, on ne peut rien faire, on attend lundi.
D'autant plus qu'il faut en France, le cercueil est obligatoire.
Tout à fait, exactement. Donc globalement, c'est ça, les événements qui jouent pour la vie. Après les fêtes religieuses, effectivement, comme vous l'avez mentionné, donc il y a deux fêtes qui sont importantes. C'est l'Aïd el-Fitr qui est la fête qui clôture le mois de Ramadan. Donc c'est le premier jour du mois qui succède au Ramadan. Ça fait pas partie du Ramadan, c'est après le Ramadan, parce que c'est le premier jour, après la fin du Ramadan. Donc après... un mois d'adoration respectée par une bonne partie des musulmans. D'ailleurs, d'après les derniers sondages, c'est l'adoration la plus respectée par les musulmans de France, la plus suivie, on va dire. Et dans le monde, c'est pareil, dans le monde entier, il y a des musulmans qui ne font pas la prière quotidienne, mais qui font quand même le Ramadan. Et les musulmans du monde entier jeûnent ce mois en même temps. On n'a pas un Ramadan en Asie, puis un autre en Afrique, un autre en Europe. C'est le mois du Ramadan, c'est universel, c'est pour tout le monde. Et à la fin de ce mois, donc, il y a la fête de l'Aïd el-Fitr, qui est la rupture du jeûne, la fin du jeûne vraiment. Donc on célèbre ce jour-là, donc on déjeune et puis on se dirige à la mosquée pour faire la prière qui a lieu à peu près donc, au début de matinée, vers 8h-9h du matin, avec un discours par l'imam qui tient au niveau de la chair et puis la prière qui succède, qui précède pour le coup, c'est inversé par rapport à la prière du vendredi. On fait la prière d'abord et le discours a lieu après, exceptionnellement. Alors qu'habituellement c'est le discours et la prière après, à part pour les prières de l'Aïd. Et la deuxième fête, elle a lieu pour célébrer le pèlerinage. Donc du coup, c'est 70 jours après la fête de l'Aïd el-Fitr. Et c'est au 10e jour du dernier mois de l'année lunaire, le mois de Dhul-Hijjah. Et c'est au milieu des 5 jours du pèlerinage. Donc les pèlerins sont à la Mecque pour faire leur pèlerinage. Et les musulmans du monde entier les accompagnent. La veille de l'Aïd en jeûnant, le jour de Arafat. Donc il est très recommandé, c'est obligatoire. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Mais celui qui peut, il le fait. Donc on jeûne pour, on va dire... accompagner spirituellement les pèlerins qui sont sur place. Et puis le lendemain, on vient à la mosquée pour célébrer donc la prière de l'Aïd. Pareil, pour accompagner ces pèlerins, on va dire, à distance spirituellement dans leur pèlerinage. En sachant que les pèlerins, il y en a à peu près à quelques millions, enfin 5 à 7 millions, ça dépend des années. Parce qu'il y a des quotas, hein, sinon il y aurait beaucoup plus. L'Arabie Saoudite, il ne peut pas accueillir 20 millions sur ce site-là. Donc chaque pays a un quota. Je pense qu'en France, c'est 30 000. On a besoin de 30 000 pèlerins tous les ans. Dans les autres pays, c'est autour de 50 000. Et donc, du coup, c'est limité par les quotas. Sinon, il y aurait beaucoup plus de pèlerins tous les ans. Ah oui, tout à fait. Ben, dans les pays musulmans, il y a un tirage au sort parce que tout le monde veut y aller. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens veulent y aller. Donc, il y a un tirage au sort.
Ça ne peut pas être une démarche individuelle, en fait. Faut pas
si, c'est une démarche individuelle.
Oui, mais c'est l'autorisation,
c'est
pas seulement.
Ah oui, enfin, etc. Mais c'est-à-dire, la démarche commence par être individuelle. Celui qui n'a pas l'intention d'y aller, il ne va pas s'inscrire. Oui. Après, c'est limité par ça, oui.
Qu'est-ce qui tire au sort alors?
Ben dans chaque commune, en général, il y a un bureau au niveau de la municipalité où il y a, les gens de la commune s'inscrivent. Par exemple, là, pour la saison prochaine, les gens s'inscrivent maintenant.
À la mairie d'Aulnay-sous-Bois.
Non, je ne parle pas de France, il y a des pays musulmans. Non, en France, c'est libre encore. Ils vont au niveau des agences de voyage qui organisent ça. Il y a quelques agences de voyage qui sont accréditées pour pouvoir obtenir des visas. C'est réglementé comme ça, c'est pas au niveau des mairies. On est dans un pays laïque, je vous le rappelle.